Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, un pesticide interdit depuis plus de 20 ans, toujours présent dans l'air en Bretagne. Interview avec Soazic Pénicaud, invité de la Maison des Associations pour parler des dérives de l'algorithme de la CAF. Il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage sur le campus Beaulieu avec Rotapé, artiste muraliste venu du Chili pour réaliser une fresque. Et puis, recommandation, c'est le nouveau numéro de Bikini qui vient tout juste de sortir. Bienvenue dans l'arène. Et c'est parti, on commence l'émission comme à chaque fois avec l'info du jour, une que je sélectionne pour vous parmi tout ce qui se raconte dans les médias locaux, parfois aussi des choses qu'on me communique directement. Aujourd'hui, c'est l'observatoire Airbraise qui publie un rapport sur la qualité de l'air en Bretagne à la demande de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Presque 20 ans de données synthétisées en un document de 70 pages, nous apprend le quotidien local Ouest France. 20 ans puisque c'est depuis 2003 que des campagnes de mesure des pesticides dans l'air sont réalisées ponctuellement, à défaut d'avoir une surveillance continue, puisqu'aucune réglementation n'existe en la matière. On peut ajouter au passage que les ventes de pesticides elles restent à des niveaux stables depuis plusieurs années, avec même un pic en 2020. Donc c'est un sujet qui se conjugue toujours au présent. Ce sont 256 substances chimiques qui ont été recherchées sur 11 sites à travers la région, et parmi elles, 77 ont été détectées au moins une fois. 8 reviennent particulièrement sur l'ensemble des sites. Il y a par exemple le S-métolachlore qui est encore utilisé par exemple dans les champs de maïs et dont le retrait du marché est prévu à l'automne. Plus curieux, on retrouve du lindane, je ne sais pas comment le prononcer, en tout cas c'est une substance interdite depuis 1998. Alors comment expliquer sa présence en Bretagne? Il faudrait chercher du côté des bâtiments qui peuvent continuer à émettre des substances au moment de leur destruction. Une des hypothèses serait aussi la remise en suspension, c'est comme ça qu'on dit, remise en suspension de la substance lors du travail de la terre. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation cherche encore à mieux comprendre cette persistance dans l'environnement. Allez, après cette info du jour, place à l'interview du jour en compagnie de Soazic Pénicaud. On va parler CAF, algorithme et fraude sociale. Petit chiffre au passage pour donner du relief à la discussion qu'on va avoir. La Cour des comptes, elle estime le montant des fraudes sociales à 309 millions d'euros en 2021, soit un taux de 0,39% rapporté à l'ensemble des prestations qui y sont versées. Ça permet de prendre du recul. Soazic Pénicaud, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes journaliste, on va parler de votre parcours et puis des sujets qui vous intéressent. On vous reçoit juste avant le début d'une rencontre qui est organisée par l'association Bug, qui cogite beaucoup sur les questions autour du numérique. Une rencontre organisée à la Maison des Associations de Rennes. Les auditeurs, s'ils courent, peuvent encore s'y rendre puisque ça commence à 18h. À qui profitent les algorithmes? C'est la question qui sera posée en votre compagnie. Pour vous présenter, Soazic, vous êtes une spécialiste des enjeux des algorithmes dans le secteur public. Ça peut faire un peu peur, on va essayer de rendre ce sujet accessible. Vous enseignez sur ce sujet à Sciences Po Paris, c'est toujours le cas.
C'est toujours le cas.
Et vous êtes l'une des co-autrices d'une enquête sur l'algorithme de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, une enquête qui est parue fin 2023 dans Le Monde et puis dans des médias, associations, partenaires. Quelle a été votre entrée dans ce monde des algorithmes ?
Oui, alors déjà je précise que je ne suis pas journaliste, mais j'ai travaillé avec des journalistes qui sont bien meilleurs que moi.
Alors on dit quoi, lanceuse d'alerte?
On va dire, moi je travaille en tant qu'indépendante et je fais de la recherche et du conseil auprès d'associations, de fondations et d'institutions publiques sur les effets du numérique sur les droits humains. Alors moi je suis rentrée dans le domaine des algorithmes publics parce que j'ai travaillé pour l'administration. De 2017 à 2021, j'étais membre d'Etalab, qui est un service de l'État en charge de la politique des données publiques. Alors ça aussi, ça fait peur, mais en gros, c'est un service qui est chargé d'ouvrir toutes les informations que les administrations produisent et aussi de réfléchir à comment on utilise le numérique au sein des différentes administrations, au sein des différents ministères.
Notamment avec une mission de renforcer un peu la transparence, ça faisait partie d'engagement pris.
Exactement, avec une mission de renforcer la transparence et notamment de renforcer la transparence de ce qu'on appelle des algorithmes publics. Donc dit très simplement, les algorithmes dans la fonction publique, ça va être tous les types de calculs qui vont permettre de prendre des décisions. Ça va être des trucs très simples. Par exemple, calculer les impôts, calculer les allocations. Ça, c'est des programmes informatiques qui le font. J'imagine que personne n'a envie que ce soit quelqu'un qui le fasse à la main. Mais ça peut aussi être des systèmes qui vont permettre, on peut dire, d'apparier une offre et une demande. Par exemple, Parcoursup, qui permet d'allouer les places disponibles dans l'enseignement supérieur aux demandes des candidats et candidates. Ou alors l'algorithme Scorecoeur, qui permet d'allouer les greffons cardiaques aux personnes qui en ont besoin.
Donc on en trouve partout, des algorithmes.
On en trouve partout et surtout, ils n'ont pas besoin d'être compliqués. C'est simplement tous les systèmes qui permettent de calculer des choses dans des politiques publiques très très concrètes.
Et ce, depuis quand ?
Et ce, depuis la numérisation du système des impôts, c'est les années 1960. Après, avec les nouvelles technologies qu'on appelle souvent intelligence artificielle, qui est un mot encore très jargonneux, mais qui veut dire qu'on peut traiter de plus en plus de données avec des nouvelles techniques, statistiques, on arrive maintenant, depuis les années 2000-2010, à développer des algorithmes pour faire des prédictions. Et c'est ça la différence.
On arrive à la CAF, donc la caisse d'allocation familiale qui nous intéresse aujourd'hui. Sur cet exemple-là, l'algorithme, un des algorithmes, en tout cas, j'imagine, il a pour but de détecter, de traquer les erreurs concernant les bénéficiaires des allocations.
C'est ça. Alors en fait, la CNAF, donc la Caisse nationale des allocations familiales, qui est supervise, en tout cas qui est l'institution centrale pour les autres CAF, depuis 2010, la CNAF utilise un algorithme qui va attribuer un score de risque à chacun et chacune des allocataires de toutes les allocations que distribuent les CAF. Ça va du RSA aux allocations familiales. Donc en France, on est sur à peu près 13 millions de foyers. Donc à partir du moment où vous touchez une allocation, la CNAF a développé un système informatique qui va estimer la probabilité que votre dossier comporte des erreurs. C'est aussi un outil de lutte contre la fraude, puisque certaines des erreurs sont frauduleuses, mais la CNAF prend bien soin de souligner que ce n'est pas pour identifier uniquement les fraudeurs, c'est vraiment pour ce qu'elle appelle garantir le juste droit, c'est-à-dire que tout le monde reçoive les allocations, le bon montant auquel il ou elle a droit.
Depuis 2 ans, vous travaillez, Soizic Pénicaud, avec des associations d'accès aux droits sociaux sur l'utilisation du numérique à la CAF. On les cite Changer de Cap et la Quadrature du Net. Et vous avez donc publié une enquête fin 2023, au mois de décembre, avec différents médias et structures. C'est le moment où on les cite peut-être. Il y a la Quadrature du Net.
Alors, en fait, oui. L'histoire, c'est qu'il y a un peu plus de 2 ans et demi, des associations numériques et non numériques ont commencé à s'intéresser à cet algorithme et aux pratiques de la CAF et des CAF en général, en remarquant qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements et aussi que certains publics, et notamment des publics vulnérables et des personnes précaires, semblaient être beaucoup plus sujettes à des contrôles et à des abus de la part des CAF. Et donc ces associations ont commencé à mener l'enquête pour essayer de comprendre pourquoi et comment. Et en parallèle, il y a des journalistes, et notamment un consortium de journalistes européens qui s'appelle Lighthouse Reports, avec qui j'ai aussi travaillé, qui a fait un partenariat avec Le Monde, ont aussi de leur côté mené l'enquête. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord la Quadrature du Net, puis Le Monde, ont demandé à la CNAF ce qu'on appelle le code source, donc c'est le programme informatique de l'algorithme qui attribue ce score de risque dont on a parlé précédemment. pour comprendre les critères qui étaient utilisés et pour comprendre les effets sur la population. Parce qu'il faut savoir que même les contrôleurs et contrôleuses ne connaissent pas ces critères et que l'algorithme n'est pas rendu public.
La CNAF a-t-elle été partante pour vous confier ce code source ?
La CNAF n'a pas du tout été partante et c'est grâce à beaucoup d'ingéniosité de la part de la Quadrature du Net qu'on a réussi à obtenir ces documents. Parce qu'en fait, la CNAF dit que si elle révèle les paramètres de l'algorithme, ça va permettre aux gens de frauder encore plus. Ce qui est un petit peu une aberration parce que la majorité des paramètres utilisés sont des paramètres comme la situation familiale ou les revenus. Alors pour frauder, il faudrait changer sa situation familiale ou changer ses revenus, ce qui est assez difficile. Mais passons. Et donc la Quadrature du Net a réussi à obtenir l'ancien code source, l'ancien modèle qui ressemble quand même à celui actuellement utilisé.
Vous l'avez dit, cet algorithme, il est en place depuis 2010. Chaque mois, ce sont 13,8 millions de foyers d'allocataires qui sont donc notés. Avec ce score donc de risque ou de suspicion, et on arrive donc à ce qui est intéressant, la façon dont il est calculé, ce score de risque. Pour faire clair, mais vous allez détailler, ce sont les publics plus précaires qui obtiennent la moins bonne note et qui sont donc susceptibles d'être plus touchés par un contrôle.
C'est ça. Alors en fait, la manière dont l'algorithme fonctionne, c'est que les statisticiens et statisticiennes de la CNAF ont utilisé des données passées, des foyers d'allocataires dont les dossiers avaient comporté des erreurs. Et grâce à des modèles statistiques, ils ont identifié les critères qui font qu'un dossier est plus à même de comporter ces fameuses erreurs. Je précise que c'est des modèles qui sont optimisés pour identifier les erreurs qui rapportent de l'argent à la CAF et non pas des erreurs qui mèneraient à des remboursements des allocataires, même si ça arrive parfois, mais en fait c'est plus un hasard statistique qu'autre chose. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on constate que les dossiers qui comportent le plus d'erreurs, ce sont les dossiers des personnes qui ont les dossiers les plus complexes, et notamment les personnes bénéficiaires des minima sociaux, qui sont des allocations sous conditions de ressources, comme le RSA par exemple, et qui ont besoin d'apporter beaucoup plus de justificatifs. Et donc, mécaniquement, ça fait que les personnes qui sont le plus ciblées par ces algorithmes, ça va être par exemple les familles monoparentales, donc énormément de femmes, puisque c'est 80% des familles monoparentales qui sont des femmes. Ça va être les personnes qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé qui travaillent. Ça va être aussi les personnes qui ont des sources de revenus irrégulières et très diverses, et les personnes qui ont des revenus bien moindres. Donc on remarque que ces personnes sont sur-ciblées par le système.
C'est 40 critères en tout, c'est ça ?
C'est une quarantaine de critères, exactement.
Je me fais l'avocat du diable, mais on pourrait se dire, bah, si on a vu au moment de concevoir l'algorithme que les publics les plus précaires, on voyait plus d'erreurs de calcul ou de fraude chez eux, ça paraît mathématique, quoi. C'est logique.
Alors, et en fait, l'enjeu, c'est que ça peut être statistique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination et ça ne veut pas dire que c'est objectif. La première chose, c'est que il y a des critères qui sont protégés dans le cadre du cadre légal des discriminations. Par exemple, la situation familiale ou la zone géographique, c'est des critères qu'on n'a pas le droit d'utiliser dans n'importe quel cas. Il se trouve que d'ailleurs, la CNAF utilisait un critère de nationalité qui a été dénoncé par le défenseur des droits en 2017 et qui depuis a été retiré. Mais on continue à utiliser des critères comme la situation familiale ou comme les revenus, qui sont donc des critères dont il faut apprécier la proportionnalité parce qu'il y a un risque de discrimination de ce point de vue-là. Et l'autre chose, c'est que il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que la CNAF dit « c'est normal que les dossiers les plus complexes comportent le plus d'erreurs, donc c'est normal qu'ils soient les plus ciblés. » Effectivement, rationnellement, c'est un raisonnement assez logique. En revanche, on pourrait prendre la chose à l'envers et dire « pourquoi on n'essaye pas de réduire le taux d'erreur au lieu de contrôler a posteriori, ce qui crée des situations extrêmement précarisantes pour les gens et des incertitudes ?» Et notamment, pour le RSA, vous devez déclarer absolument toutes vos ressources, les gens ne sont pas au courant, et c'est ça qui crée des erreurs. Et donc, ce qu'on peut contester, c'est la volonté d'optimiser un algorithme au lieu de penser à la politique publique, juste les décisions d'allouer des prestations sociales aux gens, qui pourraient réduire cette incertitude.
L'algorithme de la CAF, il produirait donc de la discrimination et puis des choses très concrètes pour les bénéficiaires, puisque ceux qui vivent ces contrôles en cas d'erreur, on leur demande des remboursements qui peuvent être parfois très importants.
Oui,
ça peut être des milliers d'euros.
C'est le cas, ça peut être des milliers d'euros, surtout quand c'est des erreurs qui sont répétées par manque de compréhension de ce qu'il faut déclarer. Dans le cadre de l'enquête du Monde, on a interrogé des personnes, ça allait de quelques milliers d'euros, ce qui est déjà énorme quand on est dans de telles situations, à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc on reçoit des lettres qui disent « vous devez nous rembourser 30 000 euros » et les personnes n'ont aucun moyen de s'en sortir.
La dernière petite nouveauté, c'est qu'il y a maintenant un accès en temps réel aux informations. Avant, c'était de façon régulière dans l'année. Ça veut dire que c'est un mouvement, on va dire, de traque des fraudeurs et de ceux qui commettent seulement des erreurs, mais qui s'amplifient, quoi.
C'est ça. Alors, en fait, ça, c'est une nouveauté, effectivement, qui a été souligné et dénoncé par la Quadrature du Net récemment, c'est qu'il y a un nouveau dispositif qui s'appelle le dispositif de ressources mensuelles qui va agréger beaucoup de données sur les personnes et sur les allocataires en temps réel, à la fois les données des salaires mais aussi les données des prestations sociales, et qui était à la base annoncé comme étant une solution pour ce que le gouvernement appelle la solidarité à la source, donc pour faciliter le versement des prestations sociales et pour éviter les erreurs. Et ce dont on se rend compte, c'est que là, avec l'introduction de ce DRM, la CNAF a demandé à pouvoir utiliser ces données pour calculer ce fameux score de risque. Et c'est là où il faut se poser la question de solutions qui utilisent des données qui, soi-disant, vont bénéficier aux allocataires et qui finissent toujours par un glissement vers des contrôles de plus en plus poussés.
Avec cette enquête là qui a été publiée au mois de décembre, qu'on peut retrouver en ligne, notamment sur le site du Monde, l'idée c'est de demander plus de transparence sur la façon dont a été conçu cet algorithme. Ça a quand même fait réagir d'une certaine façon la Caisse nationale d'allocations familiales, qui est dans une position, qui assume en fait cette situation.
Oui, alors... Je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc, d'un point de vue journalistique, l'idée, ça a été d'interroger ce système. Les associations demandent non seulement de la transparence, mais disent aussi qu'un tel système est inévitablement discriminant. Et donc, il faut remettre en cause la production de ce score tout court et donc aller au-delà de la transparence. Et je pense que c'est important de le rappeler. Ce que la CNAF a dit, alors ça a fait réagir. La CNAF reste sur ses positions en défendant justement le fait que l'algorithme est statistiquement correct et mène à des contrôles qui repèrent des erreurs. Ça interroge quand même parce que ça fait presque 3 ans que les associations alertent et on voit qu'il y a peu de remise en question de la part de la CNAF, alors que des scandales similaires se sont passés à l'étranger, notamment aux Pays-Bas, où il y en a eu beaucoup. Je pense aussi à l'Espagne, je pense à d'autres pays un peu plus lointains. Et à chaque fois, on a quand même découvert que les alertes qui étaient lancées par les associations et par les citoyens et citoyennes étaient justifiées. Et donc, ça interroge vraiment sur la position de la CNAF, qui accepte la discussion, mais surtout pour expliquer que leur démarche est légitime.
Nous n'avons pas à rougir de notre action, ce sont les mots du directeur de la CNAF dans un message interne qui a été diffusé au mois de décembre et qu'on découvre dans un article du Monde publié en février. Donc, d'autres services publics sont concernés en France et en Europe, au Royaume-Uni, notamment avec le système, on va dire, admission post-bac. Donc il y a un mouvement généralisé, en fait.
Oui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a un mouvement généralisé d'automatisation croissante des services publics. Alors au Royaume-Uni, en Angleterre, ça a été un algorithme pour calculer les notes du bac en 2020 qui a donné lieu à des grosses manifestations et à une annulation du dispositif. Dans pratiquement tous les pays de l'Union européenne, on a ces systèmes-là, soit à Pôle emploi en Autriche, soit dans les CNAF européennes. Effectivement, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur en tout cas et qui est franchement inquiétant.
Ce que ça fait ressortir, là, cette histoire, c'est quand même qu'il y a une orientation politique dans l'usage des outils numériques au sein du secteur public. On ne semble pas capable aujourd'hui de concevoir un outil pour notamment identifier les ménages qui seraient en droit de toucher des aides. On rappelle qu'il y a, alors selon le service public, ça varie, mais 30% de non-recours des personnes qui pourraient toucher des aides et qui ne le touchent pas. Par contre, sur de la fraude supposée ou rien que des erreurs, là, on arrive à concevoir de tels algorithmes. Que peut faire un usager, là, face à ce qu'on raconte? Il y a de quoi se sentir un peu désemparé. Paris.
Oui, c'est vrai. Alors, peut-être plusieurs choses. Déjà, le gouvernement, en ce moment, dit que ces algorithmes vont être utilisés pour lutter contre le non-recours. Encore une fois, je pense que c'est important de remettre ce discours dans le contexte de si un algorithme peut être utilisé pour lutter contre le non-recours, il peut potentiellement être utiliser pour les contrôles. Et donc de réfléchir vraiment, quand on dit on va utiliser les données pour aider les gens, de réfléchir aux effets, y compris à long terme, de ces systèmes. Pour les citoyens, citoyennes, alors je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous recevez des décisions de la CNAF, elles sont contestables, vous avez des droits, qui ont à voir avec les systèmes informatiques qui sont utilisés, comme le droit de se voir expliquer les algorithmes qui ont été utilisés pour calculer vos droits, par exemple, le droit de se voir expliquer les décisions. Vous avez aussi des recours, et c'est des choses, en tout cas, que les associations encouragent à faire. N'hésitez pas, si vous recevez une décision, ça peut être très très violent, mais d'aller voir une assistante sociale, d'aller voir un avocat, de vous adresser à des associations qui peuvent vous aider à vous saisir de vos droits. Et plus généralement, ce que je dirais pour les personnes que ça intéresse ou que ça interpelle, c'est on utilise souvent le terme algorithme, qui est un terme qui, selon moi, est trop technique, même si je l'utilise beaucoup, et qui en fait nous éloigne du fait que tout ce dont on parle, c'est des politiques publiques. Politique publique du logement, politique sociale, politique d'éducation. Et tout ça, c'est des choses dont chacune et chacun a le droit de s'emparer. Et si on enlève le terme algorithme, tout le monde pourrait et donc a le droit de se sentir légitime pour s'exprimer sur ces questions. Vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences techniques pour pouvoir vous exprimer et pour pouvoir exiger que l'administration rende des comptes sur son action.
Soizic Pénicaud, je vous représente. Vous êtes donc une spécialiste des enjeux des algorithmes dans le secteur public, invitée lors d'une rencontre organisée par Bug à la Maison des Associations de Rennes. Ça commence à 18h. Les auditeurs, s'ils habitent dans le centre-ville, peuvent encore y courir. Et il y aura une vidéo qui sera par ailleurs mise en ligne sur le site de la Maison des Assos, mda-rennes.org. La question qui sera posée, c'est donc à qui profitent les algorithmes ? Un rendez-vous qui est gratuit. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Entre la terre et l'argile, la microphone se faufile, au ras du sol s'agite, agile. Polyfragments et fossiles.
Françoise Breut avec le morceau Aude au vert sur Canal B. C'était une nouveauté musicale repérée par Yann Barbotin, notre programmateur ici à la radio. Et vous retrouverez ce titre très bientôt sur un album vif. Il est attendu pour le 19 avril. Ce sera le 8e disque pour cette musicienne et chanteuse française, désormais installée à Bruxelles. Un disque qui est placé cette fois sous le signe de l'organique et dont vous venez d'entendre un extrait avant sa sortie dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Vous êtes sans doute branché sur le 94.0. Sachez que vous pouvez aussi nous écouter en ligne sur canalb.fr, un site où vous pouvez retrouver bien rangé l'ensemble des émissions réalisées par des salariés, mais aussi par de nombreux bénévoles. Allez, on poursuit l'émission avec le reportage du jour. Et direction le campus de Beaulieu de l'Université de Rennes pour rencontrer Rota P, entendez JP en espagnol, pour Juan Pablo. Cet artiste muraliste chilien réalise cette semaine une fresque sur un mur de l'ESIR, l'école supérieure d'ingénieurs de Rennes. Un projet réalisé en partenariat avec le service commun d'études des langues vivantes appliquées. Allez, rencontre.
Hay una persona que tiene sus manos haciendo cada una un gesto.
Une personne en train de faire un geste avec ses mains.
Una mano está en el centro de su pecho, en el corazón.
Une main sur le cœur.
La otra mano está sosteniendo una estrella.
L'autre porte une étoile.
En la parte de la mano del pecho vemos el cosmos.
Celle sur le torse, on y voit le cosmos comme une origine.
Y la otra parte vemos la estrella.
Sur l'autre partie, l'étoile comme un objectif, celui d'aller comprendre le cosmos.
Hola, mi nombre es Juan Pablo, soy muralista de Chile, de Viña del Mar. Mi firma como artista es JP, las iniciales de mi nombre. Y muchas gracias por la invitación a esta entrevista.
Donc, il s'agit de Juan Pablo, donc il est muraliste chilien. Et il vient de Viña del Mar, une ville au bord de la mer. Et il vous remercie pour cette interview.
Et son nom d'artiste, Rota P, JP en français, les initiales de son prénom.
Yo primero hacía arquitectura y conocí el movimiento del megamuralismo, este muralismo contemporáneo, estudiando arquitectura, que después de graduarme se dio la oportunidad de un proyecto, participé de pintarlo y me gustó mucho.
Donc JP, il a fait des études d'architecture et à travers ses études, il a découvert le mouvement Megamuralismo, donc des fresques gigantesques. Et il a eu l'occasion de participer à un de ces événements et depuis, il n'a pas arrêté.
Entonces, entendí que era lo que quería dedicarme. Se fueron haciendo cada vez más seguidos estos proyectos. Renuncio a mi trabajo y estoy de hace 8 años. Ya dedicado completamente a murales.
Donc à travers ce premier projet de Mega Mural, il a compris que c'est vraiment ce qu'il voulait faire, donc il a arrêté, démissionné de son travail d'architecte et il est muraliste depuis 8 ans maintenant.
Bueno, mi primera experiencia fue en Valparaíso, Viña del Mar, mi provincia, y después siempre un sueño que tuve fue viajar y comprendí que el muralismo es una llave muy buena para ir compartiendo y pintando y viajando.
Donc ses premières expériences étaient au Chili, à Viña del Mar et à Valparaíso, une ville connue pour cela. Et il a aussi vite compris que le muralisme pouvait permettre de voyager et de pouvoir avoir ces deux passions en une.
Viajé durante un año pintando. Viajé desde Chile hasta Nicaragua. Fui hacia el norte, pasé por Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Y volví a Chile y ya me planteé como el trabajo murales. He venido a pintar a Europa también.
On n'est pas obligé peut-être de refaire tous les pays, mais tout un périple pour revenir au Chili, ouais, avant de venir en Europe.
Du Chili jusqu'au Nicaragua, et ensuite il est revenu au Chili, et là il s'est dit que ce serait bien qu'il voyage jusqu'en Europe.
Entonces, uno se impregna de la cultura de esos lugares, a la vez que uno propone la cultura que uno trae, y se genera una mezcla que yo creo que el mural es una muestra un poco de lo que es esa mezcla.
Donc il est invité sur un lieu, donc ça peut être n'importe quel pays. Donc il arrive avec sa culture chilienne, mais il s'imprègne aussi du territoire sur lequel il est. Et c'est aussi l'objectif de muralisme, c'est ce mélange entre différentes cultures.
Votre style, dans les couleurs que vous employez, les formes, vos inspirations, comment est-ce qu'on pourrait le décrire ?
Mi inspiración principal es la música y poesía.
Donc son inspiration principale, c'est la musique et la poésie.
Y desde ahí voy creando mi propio imaginario, que fue lo que aprendí siendo adolescente de mi crianza.
Donc à travers la musique et la poésie, il a créé son propre imaginaire depuis l'adolescence.
Mi trabajo es más figurativo, me interesa interpelar al transeúnte, y en eso pinto generalmente personas o expresiones humanas para que el transeúnte se sienta como un espejo reflejado.
Donc son travail est figuratif, hein. Il peint souvent, presque toujours, des figures humaines, des personnes. Et l'objectif est que le passant, quand il regarde cette fresque, il puisse ressentir, voir des émotions humaines.
Un peu comme dans un miroir.
Que vous voulez qu'on parle, parce que Rotapé, il a fait plein de fresques en Bretagne, on n'en a pas du tout parlé.
Ah oui, bah oui, carrément.
Bueno, en Bretagne, hemos tenido la suerte de trabajar con varios centros educativos, colegios, escuelas y universidades, y ha sido muy lindo, la gente acá es muy amable.
Donc il a eu l'opportunité de peindre pas mal, hein, de fresques en Bretagne, dans des collèges, des lycées et à l'université. Et pour lui, c'était vraiment une jolie expérience de pouvoir échanger avec des élèves, des étudiants. Il a peint, par exemple, dans la ville de Lorient, à l'UBS de Lorient, au lycée du Puy-de-Lôme, plusieurs fresques, parce qu'il est venu plusieurs années de suite, à Pontivy, au lycée Lotte, à Pont-l'Abbé. Muchísimo, il y en a beaucoup. La prochaine fois, bientôt, il va à Questembert.
Pourquoi Bretagne ?
Parce que j'ai reçu une invitation d'un projet de muralisme et avec unos amigos vinimos à pintar durante un tiempo en esos colegios.
En fait, ils ont été invités à plusieurs muralistes chiliens sur un projet qui voulait diffuser justement cette culture-là en Bretagne. Et donc, ils ont eu l'occasion d'être en résidence artistique dans différents collèges, lycées du Morbihan.
Ah, c'est 3 ans.
Cela fait 3 ans.
Là, on se retrouve sur le campus de Beaulieu. Comment vous êtes arrivé à l'université de Rennes ?
Fue une invitation à travers de una conocida de nosotros. Y surgió la idea de hacer una actividad cultural a través del muralismo, compartiendo las ideas del muralismo chileno junto con los estudiantes.
Donc c'est à travers une invitation d'une personne que l'on connaissait de l'université, un professeur d'espagnol. Et l'idée était d'avoir un événement culturel en lien avec le muralisme chilien et avec les étudiants, bien évidemment.
Estamos pintando la Facultad de Ingeniería de Rennes y me planteé la idea con interpretar un poco el cuál es el motivo de por qué ellos hacen ingeniería.
Donc nous sommes sur la faculté des ingénieurs et donc l'idée c'est de réfléchir pourquoi on devient ingénieur.
Quise ir un poco más hacia la base y independiente de la disciplina que nosotros hacemos, hay una primera pregunta que es sobre nuestro origen y entender quizás hacia dónde vamos, eso trae conocimiento.
Donc il est parti de la base et la question c'était d'où venons-nous, qui sommes-nous ? Et donc oui, savoir d'où l'on vient pour pouvoir ensuite créer du savoir, des connaissances.
El mural es una metáfora sobre eso, se llama la fuente, que es esta idea de contestar la pregunta de qué estamos, de dónde venimos, y desde ahí aparece tecnología, filosofía, ingeniería, ciencia.
Donc la fresque s'appelle La Fuente, la source, et donc l'objectif c'est de pouvoir un peu répondre à cette question d'où l'on vient, pourquoi on fait ça, et comment l'ingénierie, l'informatique, les nouvelles technologies, la philosophie nous aident à répondre à ces questions.
Este fuego interior que es como una estrella, venimos de las estrellas, está nuestro cosmos está dentro nuestro y somos nosotros mismos creando todas estas cosas.
donc le feu intérieur qui est représenté par une étoile. Et nous venons tous du cosmos. Il fait partie aussi de nous. Et on recrée nous-mêmes un cosmos.
Es un mural medianamente grande. Y estamos pintando, llevamos 4 días pintando. Y a la siguiente semana haremos una actividad con estudiantes de taller.
Donc pour lui, c'est une fresque de taille moyenne. Et donc, ça fait 4 jours qu'ils peignent et ils finiront samedi. Et la semaine prochaine, ils auront une autre activité, une fresque collective qui se fera avec les étudiants volontaires.
Il y a donc une volonté d'entrer en dialogue avec les étudiants. Est-ce qu'il y a un échange quand ils passent près de vous? Est-ce que ça les interpelle?
Sí, las profesoras con las que hemos estado trabajando han socializado esta actividad con sus estudiantes y vienen durante la tarde a compartir y preguntar. También ahí con la conferencia ahondaremos en eso.
Oui, donc il y a un échange parce que les professeurs d'espagnol viennent avec leurs étudiants. Et donc les étudiants posent des questions et il y aura bien sûr un autre échange plus long lors de la conférence.
Une conférence sur le thème du muralisme au Chili.
¿Está casi terminado?
No, falta un poco. Hay que continuar este fondo.
Il faut encore continuer ce fond.
Y abajo, el cosmos, porque
et en bas, le cosmos qui s'étend de la main posée sur le cœur.
Se inicia como desde lo que es el universo. La zona derecha vamos a hacer una expresión más reticulada, sintética, ortogonal, para expresar el cambio donde el hombre, como mira a la derecha, se vuelve la síntesis del conocimiento.
Et à droite, un réseau des formes orthogonales comme la synthèse des connaissances de l'homme.
Comment on peut expliquer aux auditeurs la place du muralisme au Chili?
Tiene una base muy política desde una influencia que es la Revolución Mexicana y llegó esa influencia a Chile. Fue entonces una primera expresión muy política y de educación.
Donc le muralisme a vraiment une base politique. Et donc c'est le muralisme mexicain qui a inspiré aussi les muralistes chiliens avec l'objectif d'éduquer.
Y luego con la dictadura esto se vuelve clandestino. Al mismo tiempo que terminando esto, la dictadura refuerza lazos culturales con Estados Unidos y llega en los 80 y 90 la cultura del graffiti. Cosa que después de la dictadura se mezclan ambas disciplinas.
Donc au Chili, il y a eu la dictature, hein, voilà, de Pinochet, et ces mouvements-là étaient aussi présents de manière clandestine, mais la dictature a aussi amené le mouvement néolibéral, et donc ça s'est encore plus développé dans les années 80-90 à travers le graffiti, les arts urbains.
Et surge desde esto, junto con movimientos internacionales, la creación de este muralismo contemporáneo que nace de la mezcla del graffiti que se empieza a producir más y en específicamente en Latinoamérica con este discurso muy político de posicionamiento frente a la realidad y de educación también.
Donc c'est un mouvement mondial, hein, le mélange du graffiti et du muralisme, mais c'est vrai qu'au Chili particulièrement il y a quand même un axe politique très fort et toujours en lien avec l'éducation.
Aujourd'hui, pour faire du muralisme, comment ça se passe? Il faut des autorisations ou il y a encore une liberté justement dans l'appropriation des espaces?
Hay una mezcla porque cuestionar también cómo es el espacio público y cómo usarlo es parte del arte callejero.
Donc voilà, il y a un mélange parce que c'est vrai que le muralisme, les arts urbains, il y a quand même la question de savoir à qui appartient l'espace public, comment on se l'approprie.
Entonces nosotros entendemos que usar el espacio público también puede mejorar nuestra calidad de vida y no es necesario quizás una autorización en algunos momentos y plantear cómo esa rebeldía es parte del arte callejero.
Donc voilà, il indique que l'espace public est important, il faut se l'approprier et qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir l'autorisation pour le faire.
Y también existe con autorización y con acuerdo de la comunidad. Sí que siempre, al menos intento de que se involucren más personas y generar una cultura en torno a la intervención, pero no siempre va a ser así.
Donc ce n'est pas toujours le cas, hein, le fait de peindre sans autorisation. Il y a aussi l'importance de réunir les gens, que les gens s'impliquent dans le projet, parce que ça, c'est aussi une partie du travail de Jotapé, que la communauté se retrouve à travers les fresques et l'espace public.
Un exemple serait de questionner pourquoi nous acceptons tan facilement la publicité et nous ne pouvons pas peindre un mural. C'est illégal.
Donc un exemple, c'est pourquoi on accepte si facilement des panneaux publicitaires dans notre espace public et pourquoi on interdirait une fresque.
Généralement, c'est une résistance culturelle.
Donc oui, en général, c'est quand même une résistance culturelle.
Et alors, comment est-ce que vous observez les murs en Bretagne ?
Bueno, entiendo que tienen una vida quizás más desarrollada hacia los espacios interiores porque el clima les deja fuerte.
Donc voilà, lui comprend que de par notre climat, on a quand même une vie très développée à l'intérieur, chez nous, plutôt qu'à l'extérieur.
Y me llama la atención ver pueblos y ciudades que de pronto son un poco homogéneas.
Donc lui, ce qui l'a surpris, c'est de voir tous ces petits villages qui étaient peints de manière totalement homogène.
Es algo de culturalmente diferente, no lo siento bueno o malo. Pero yo vengo de un sitio con mucha diversidad.
Donc voilà, il n'y a pas de jugement sur le fait que ce soit bien ou mal, mais culturellement, c'est très différent de là où il vient, où là, il y a de la couleur partout, sur tous les murs.
Entonces, intento compartir lo que yo traigo, que estudiantes de talleres se motiven a intervenir sus lugares, de pronto un color cambia los espacios mucho y la energía cambia.
Donc il essaye, de par son travail, de montrer aux étudiants, lors d'activités d'ateliers artistiques, qu'il est possible de changer un environnement rien qu'avec une couleur, un dessin.
Commentario final sería darle un agradecimiento a las personas que me reciben y permiten que podamos desarrollar esto. Somos muchos haciendo un proyecto como este. Yo soy la parte visible. Y es importante como frase. A mí me transforman más los lugares a mí que yo los lugares que pinto.
Donc pour terminer, je voudrais remercier hein, tous les gens qu'il rencontre, qui le soutiennent, parce qu'un projet de fresque, la partie visible c'est lui, mais il y a beaucoup de gens derrière qui font le travail. Et donc il a une phrase, il ne change pas le lieu, mais c'est le lieu qui le transforme.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando como en el muro la hiedra y va brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve
tan inocente se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 el amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, 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 de par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Violeta Parra avec le morceau Volver a los 17 sur Canal B. C'était le choix musical de Rotapé qu'on vient d'entendre dans un reportage. Un titre composé en 1962 et à retrouver sur l'album Las Últimas Composiciones qui est sorti en 1966. Un tout petit peu avant le décès de cet artiste, Violeta Parra, qui est connue pour être une des voix engagées du Chili, figure de la musique dite folklorique. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'info locale de Canal B. Tiens, lundi, il n'y aura pas d'émission, déjà parce que c'est férié, mais surtout parce que nous serons en direct depuis la fête du livre à Bécherel. De 14h à 16h, nous vous proposons une émission enregistrée sur le lieu du festival en compagnie de Yann, de Quentin et de Louise de la radio. Donc ne vous inquiétez pas de ne pas entendre la reine lundi, c'est pour ça que je vous le disais. Avant de se quitter, c'est l'heure de la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des petits conseils d'événements à vivre près de chez vous, aussi parfois des idées de lecture, de podcasts à écouter ou de documentaires à voir. Aujourd'hui, je relaie la sortie du nouveau Bikini. Vous savez, c'est ce magazine breton Société et Pop Culture. Il est gratuit, on le trouve dans beaucoup de lieux culturels de la région. Au sommaire de ce numéro 66, pour la période avril-mai, on nous parle Biniou, féminisation des musées, collectionneurs de vinyles, détournement de cartes postales, plein de recommandations culturelles aussi, évidemment, avec la saison des festivals qui approche, et je voulais vous recommander la lecture d'un article en particulier sur le thème de la photographie mortuaire. Il est signé Julien Marchand. Alors c'est passionnant, on y découvre une pratique populaire au début du XXe siècle, difficilement compréhensible de nos jours, un révélateur, je cite, de notre rapport distancié à la mort. Ce papier, il est évidemment écrit en lien avec l'exposition Mourir, quelle histoire, à voir au musée de Bretagne jusqu'au mois de septembre. On y lit donc la conservatrice du musée, mais aussi Grégory de la coopérative funéraire de Rennes, et également deux photographes bretons qui pratiquent cette photographie mortuaire aujourd'hui en 2024. Le mieux, c'est d'aller le lire, cet article. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.